Est-ce qu'on se donne tous l'opportunité d'intégrer dans nos équipes des personnes différentes ?
Transphobie ? J'ai posé ces mots-là.
Finalement, je les dérange, ces gens.
Je suis homosexuel. Au départ, je ne l'avais pas choisi. Personne n'a eu un rôle adapté dans cette situation.
Il faut qu'on arrive à construire des entreprises aujourd'hui qui sont à l'image de notre société aussi.
Les voies de l'inclusion et de la diversité. Masterclass d'Anthony Babkin, première partie.
Aujourd'hui, nous enregistrons un podcast, une masterclass, avec Anthony Babkin. Si Anthony est avec nous, c'est parce que j'ai eu la chance de le recevoir dans un autre podcast qui s'appelle Déclic. Anthony Babkin, c'est le cofondateur des Diversity Days et il nous a semblé à la fois pertinent et précis dans tout ce qu'il a pu nous raconter à titre personnel et par rapport à ce qu'il a construit dans le temps avec les Diversity Days. Bonjour Anthony.
Salut Pierre.
C'est pour ça que nous nous tutoyons. Anthony, est-ce que tu peux, pour commencer, me dire qu'est-ce que c'est que la diversité ?
Alors déjà, j'aime bien commencer en disant qu'il existe 25 critères de diversité en France, reconnus en tout cas. Ça peut passer du genre, en passant par l'âge, le poids, la taille, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, etc., etc. Et donc, ces 25 critères-là sont objectivés, c'est-à-dire qu'ils sont mesurables ou ils sont visibles, ou invisibles. Rappelons que 80% des handicaps sont invisibles. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi des facteurs de discrimination. La charte de la diversité, qui date de 2020, montre qu'il existe ces 25 critères-là et qu'ils sont susceptibles aujourd'hui de te discriminer dans l'entreprise. Ce qui m'amène à parler aussi d'un autre terme, qui est celui de l'intersectionnalité. Aujourd'hui, on peut être un peu de tout ça, c'est-à-dire que tu peux être d'origine maghrébine, musulman, LGBT, en situation de handicap, tu peux être une personne noire, diplômée d'une grande école, originaire d'un quartier, et donc devenir de ces différentes diversités. Donc j'aime bien parler des diversités avec un grand S, et de dire que finalement c'est une richesse, mais qu'en France, et en particulier dans le monde du travail, ça peut être aussi des facteurs de discrimination. Donc on est là pour en parler aussi dans cette masterclass, et voir comment l'entreprise peut remédier parfois à ces sujets-là, lorsqu'il y a discrimination, ou alors en faire une richesse pour l'entreprise. Pour moi, la diversité, c'est quelque chose de beau, qui compose notre société. D'ailleurs, on parle de biodiversité. Donc c'est chaque personne est une composante. On parle beaucoup aussi en ce moment de singularité parce que on a beaucoup parlé de handicap et aujourd'hui on avance de plus en plus sur les enjeux de neurodiversité. C'est très large, très complexe, mais il faut juste se dire que la diversité c'est notre société et que il faut qu'on arrive à construire des entreprises aujourd'hui qui sont à l'image de notre société aussi. Il y a cet activiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Verna Meyers, qui a une citation qui est devenue célèbre, qui dit « La diversité, c'est vous inviter au bal, l'inclusion, c'est vous inviter à danser. » Et j'aime bien finalement cette métaphore parce qu'elle nous met aussi dans cette difficulté qui est l'enjeu de diversité et d'inclusion.
Tu nous exposes très bien la largeur de la diversité, mais comment, toi, tu as pris conscience de ceci, personnellement ?
C'est moins, je pense, une prise de conscience qu'un cheminement. J'ai eu la chance de grandir à Évry-Courcouronnes, dans le sud de Paris, à 30 km de Paris. Mais je dis souvent que c'est derrière le périphérique et ça suffit déjà à ça. Et en fait, je dis souvent que j'ai eu trois bonnes fées. La première, c'est ma maman. C'est une femme qui s'est arrêtée de travailler pour soutenir son enfant en détresse au niveau scolaire à l'époque. Ma maman, elle a fait le sacrifice d'une carrière en se disant « j'ai fait des enfants, c'est pour m'en occuper ». D'ailleurs, cela dit, au passage, c'est souvent les mères qui sacrifient leur carrière au détriment, en faveur de leur mari. Et je pense que j'ai des parents qui ont toujours eu à cœur qu'on fasse des études, mon frère et moi. Et donc, c'était un espèce de prérequis. Il fallait faire des études et quoi qu'il arrive. Donc, c'était finalement un pas de côté pour les parents pour dire « Ok, tu feras des études, mon fils, quoi qu'il arrive ». Pas de chance, ils avaient misé sur le mauvais élève de la famille. Deuxième chose qui a été structurante, c'est le soutien scolaire. Clairement, maison de quartier des Épinettes, petit quartier à côté de chez moi, et dans laquelle j'ai eu la chance d'avoir des cours du soir par des étudiants étrangers qui étaient là et qui prêtaient de leur temps pour tout simplement aider des gosses à qui il fallait un petit peu de soutien. Mmh. Et ça m'a permis d'avoir mon bac. Et la troisième bonne fée, c'est, je pense, des profs que j'ai rencontrés plutôt dans le supérieur, qui ont cru en moi et qui ont vu le mauvais élève, mais qui avait du potentiel. Et je dis le potentiel en tant que peut-être entrepreneur, créatif, j'en sais rien, mais en tout cas, qui m'ont plutôt encouragé à continuer en école de commerce. Par chance, à Évry-Courcouronnes, il y avait ce qu'on appelait l'INT, qui s'appelle dorénavant l'Institut Mines Télécom. Et j'ai eu la chance de rentrer dans cette école, qui était une école publique, donc pas de frais à débourser. Donc, c'est génial. Changement de décor. 10 ans plus tard, je me retrouve directeur général adjoint en charge de TBWA.
J'ai compris que tu as eu ces trois bonnes fées.
Ouais.
Mais est-ce que tu avais conscience à ce moment-là d'appartir à une diversité ?
La première fois que je l'ai constaté, c'était le cabinet Mosaïque. Je ne trouvais pas mon alternance. J'étais en quatrième année, après le bac, master 1. Je cherche une alternance. J'envoie plein de CV, bouteille à la mer, pas de réponse ou réponse négative pour le très peu de réponses que j'avais. Et là, je commence comme tous ceux qui n'ont pas de réponse, à me remettre en question en disant qu'est-ce qui va pas dans ma démarche. Et puis là, ma propre mère qui dit, faut peut-être que tu mettes mon nom de jeune fille. Il faut peut-être que tu enlèves Évry et que tu mettes une adresse à Paris. Et en fait, à chaque fois que ma mère avait ce genre de remarques, je disais, mais c'est ridicule. Enfin, je comprenais même pas pourquoi elle me disait ça. Elle qui était peut-être plus consciente des biais qui existaient. Et là-dedans, j'ai envie de dire que j'ai le privilège blanc. Je suis un homme et je suis un homme blanc. Donc ça, c'est déjà un privilège en termes de recrutement. Et il faut être conscient de ça. Je le suis. La deuxième chose, c'est que ça n'enlève pas le nom à consonance étrangère, la ville de banlieue et le fait de ne pas avoir d'expérience dans un grand groupe, etc. Et ça, à l'époque, Mosaïque, donc la fondation Mosaïque, qui a aujourd'hui qui fête ses 15 ans, qui a accompagné des dizaines de milliers de jeunes de banlieue à trouver leur première alternance ou emploi. Moi, là où ça a été très révélateur, c'est que j'ai commencé à conscientiser ce truc-là en me disant, en fait, ils ont raison. En fait, les trois choses factuelles où ils me disaient ton nom à consonance étrangère, ta ville de banlieue, plus pas d'expérience dans le grand groupe, c'était vrai. Donc, j'ai dit, en fait, ils disent vrai, donc on va tenter. Et j'ai trouvé ma première alternance grâce à eux.
Et là, tu prends conscience de ce que veut dire la diversité et tu te sens exclu ? Tu le vis mal ?
Je me sens juste soutenu en me disant, peu importe le moyen, il faut que je trouve une alternance. Et donc, si c'est via ce canal-là, c'est parti.
Ouais.
Et il m'aura fallu 10 ans et d'atterrir dans le monde des grandes entreprises et d'occuper un poste à responsabilité dans une grande agence de pub pour me rendre compte que j'étais le quota de l'époque. La réalité, c'est qu'à cette époque-là, je suis nommé à l'âge de 30 ans directeur général adjoint. Et je suis en position de décider d'un coup de recruter qui je veux, comme je veux, etc. Et c'est là que je me suis dit « rien ne va ». Rien ne va parce que seuls les profils un peu standardisés, sortis de grande école, parisiens, qui avaient les codes, entre guillemets, réussissaient, ou en tout cas trouvaient leur place. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que ces personnes-là, qui seraient hors des sentiers, type grande école, etc., seraient moins formées, moins habilitées, moins j'en sais rien, ou tout simplement c'est parce que l'entreprise est tellement peu diverse que le moment où ces personnes-là, qui ont été un peu moins... essayer à la chose corporate, un peu moins peut-être tuyauté, un peu moins mentoré, un peu moins pistonné, qui arrive dans ce monde-là et c'est Game of Thrones pour eux, quoi. Alors c'est déjà, il y a une grande défiance dans l'entreprise, mais en plus, si t'arrives là sans les codes, sans la notice d'explication et les règles du jeu, t'as une chance sur 1000 de réussir.
Merci Anthony. C'est la fin de cette première partie. On te retrouvera à 2 autres reprises pour la suite de cette masterclass. On abordera notamment dans le prochain épisode un point central, celui des rôles, des conduites à tenir lors d'une discrimination, et on se posera la question de sa propre responsabilité.
Podcast Learning Academy. By Toutac.